I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de jeux, de PC, de souris, de tous les trucs qui sont hyper importants. Je sais pas pourquoi j'ai dit souris là. De manettes, de streaming, d'industrie, on fait des analyses, on passe des bons moments ensemble. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour couvrir toute l'actu, quelle actu ? PlayStation 5, on a plein d'informations, on a des news du côté de Nintendo, on a aussi des informations du côté de Blizzard, plein de choses hyper intéressantes. Et pour m'aider à couvrir tout ça, d'une part, j'ai Escarina qui a une nouvelle à nous annoncer. Comment ça va, Escar ?
Salut Patrick, effectivement j'ai une nouvelle de 2,7 kg qui est en train de, de me dormir dessus. Donc oui, je suis maman depuis le 3 septembre d'une petite fille.
Mais félicitations, bravo. Et c'est là, c'est comme Beyoncé, tu droppes l'album sans l'avoir annoncé avant. Bon. Moi, j'avais un petit peu d'insider knowledge. J'étais au courant avant même tout ça. Mais bravo, Escarina, tout se passe bien.
Merci beaucoup. Tout se passe très bien. Oui, je pense que c'était un petit peu de la superstition. Je ne voulais pas en parler avant qu'elle soit là. Je me suis dit, si jamais elle est moche raison. Et qu'il faut que je l'échange au SAV. Mais non, ça va aller magnifique. Au final, c'est la plus belle, bien évidemment.
T'es satisfaite. Super. Écoute, félicitations. Je suis très content.
Merci
pour
beaucoup.
Toi. Et on a de l'autre côté, on a également Daniel Andreev qui se joint à nous. Ça faisait presque un an, tu me manquais, Daniel.
C'est vrai, ça fait un an ?
Presque, j'ai
attends,
regardé.
Excuse-moi, j'avais un couplet. Salut, c'est JK. J'avais prévu une émission de faire JK pendant toute l'émission. Ouais, alors franchement, les teraflops. Alors, je dis ça, ça fait presque un an, mais on t'a volé JK le temps d'une émission. Il est venu nous parler de la haute technologie et finalement tout ce qu'il nous a dit c'était que finalement le Game & Watch il l'a acheté le vrai truc de Yonkli de la saison il l'a acheté
et donc, tu sais quoi le Game & Watch je l'ai précommandé aussi. Donc,
vous êtes vraiment des clients.
Mais carrément, j'ai honte de moi-même.
Ah non, non, mais comme si t'avais besoin d'une autre raison. Comme si tu avais besoin d'une autre manière de jouer à Super Mario Bros 1 et Super Mario Bros 2. Genre, merci. Et aussi de te donner l'heure, parce que je suis sûr que tu n'as pas une Apple Watch, toi.
Game
toi, tu dois avoir 6 Apple Watch à chaque main.
Regarde, là, je ne l'ai pas aujourd'hui parce qu'elle n'était pas chargée. Mais si, tu vois, qu'est-ce que je fais quand mon Apple Watch n'est pas chargé ? Qu'est-ce que je peux faire ?
Tu vas prendre un Game & Watch.
Je vais prendre un Game & Watch, exactement. Non, mais tu sais, moi, je ne suis pas du tout... je suis pas du tout nostalgie et j'ai acheté aucune de ces consoles. Je suis sûr que, tu vois, tu te moques de moi, mais je suis sûr que tu as acheté la Nintendo, la NES Mini, la Super NES Mini.
Non
la
seulement Mega... ça, mais pour moi, c'est un. Non seulement c'est pas un outil nostalgique, mais c'est un outil de travail. Et en plus, c'est une vraie période que j'ai vécue, donc c'est vraiment primordial pour moi d'y jouer parce que c'est d'abord d'en parler, mais aussi parce que c'est des chouettes produits en fait. Et là, on est clairement dans le jonpilante quand même. Hein, si
donc, attends. Ça veut dire que tu as été client des NES Mini, Super NES Mini, tout ça, et le Game & Watch, c'est là où tu arrêtes, tu mets le hola, tu dis non, là, c'est juste pas possible, c'est trop.
Oui,
c'est ça que tu es
ouais,
en train
ouais,
de dire.
Clairement.
D'accord.
Super Mario Bros 1, j'ai environ 26 manières d'y jouer différentes. Merci bien Nintendo, mais ça va.
Très bien. Écoute, je l'ai peut-être précommandé pour me dire que j'aurai une console nouvelle, enfin une console, je ne sais pas si c'est une console, mais une machine nouvelle de cette année au moins, parce que j'ai appris avec effroi total que ma précommande de PlayStation 5 était définitivement dans les choux. j'avais pu, je pensais, en précommander une, et elle ne va pas arriver. Et visiblement, d'après... Alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, oh, c'est Sony qui fait du marketing pirate en prétendant qu'il n'y aura pas de console, mais en fait, ils vont en avoir plein et tout. » Moi, je n'ai jamais cru à ce genre de choses. Mais des infos que j'ai de la chaîne, pas de production, mais de livraison, ça va être chaud, ça va être chaud. Je suis sûr qu'ils en gardent un certain stock pour le lancement lui-même et qu'il y en aura dans les magasins pendant, je ne sais pas si ça sera quelques minutes ou quelques jours, mais visiblement, c'est plus chaud que ce que j'imaginais. Donc, voilà, comme je n'aurais visiblement pas ma PlayStation 5 au lancement, je me suis dit, au moins, j'aurai une Game & Watch, tu vois. Ça, c'est aussi bien, non ? C'est ça ?
Non.
Tu peux jouer en 4K sur ton écran.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, non, pas du tout.
Bon, d'ailleurs, je dis ça, si jamais certains d'entre vous ont des moyens d'avoir des PlayStation 5...
Alors, pareil, parce que moi, je ne suis pas du tout le roi du F5 Game. Et il y a Hamster Joueur, les gens ils m'ont dit « Abonne-toi à Hamster Joueur depuis deux semaines, Hamster Joueur, il m'explique comment avoir des réductions sur... sur des jeux 3DS, dont j'ai rien à faire. C'est adorable, mais par contre, il n'y a rien sur le niveau PS5. Et le problème de la PS5, mais c'est les Yankees qui en achètent 3-4 et qui en ont réservé une dans chaque magasin, une pour chaque main.
Qui vont les revendre sur eBay, en plus.
Il faut quand même avoir 1 200 € de cash flow, quand même, tu vois, si tu en achètes 3.
C'est un investissement. Ils vont se faire de l'argent, alors, tu vois.
Moi, je suis, pour dire pudiquement, je suis Ken sur cette histoire de la pré-réservation. Je suis nul à ça. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le matin même dans un magasin et je vais tenter la chance.
Voilà. C'est ce que je compte faire aussi. On verra si ça fonctionne ou pas. Mais bon, ça va être une aventure. Ça fera peut-être que qu'on le streamera en live, en Twitch. Genre duo Twitch, double écran. Peut-être qu'on pourra faire un truc comme ça.
Le meilleur remake d'un des meilleurs jeux d'il y a 10 ans, ça va être intense.
Écoute, il y avait bien des gens qui faisaient des vidéos de leur attente de l'iPhone dans la queue du magasin d'Apple. Donc, pourquoi pas ?
Ouais, mais est-ce que ça, c'est pas du pipeau ? Parce que j'ai fait des sorties d'Apple juste en tant que curieux et en tant que journaliste. Par exemple, j'en ai fait une au Japon, la sortie de l'Apple. Tous les 20 premiers dans la file d'attente, c'est des guignols qui sont là pour justement que les caméras viennent, en fait. Ce n'est pas du tout des gens qui sont là pour les iPhones.
Mmh. Ouais, c'est des gens qui sont envoyés par Apple pour faire genre...
Non, c'est juste des gens qui veulent leur heure de gloire. J'étais dans la queue pour avoir un iPhone. Incroyable.
Je crois que tu ne crois pas si bien dire. Je crois que c'est Microsoft qui les envoie pour qu'ils achètent des Apple pour qu'ils foutent une mauvaise Bon. Tiens, prends des Reebok signé Nike.
Écoutez, on va se lancer dans les news quand même de l'émission. Ah si, quand même juste une question. Eska, t'as eu alors t'as réservé une PlayStation ou pas du tout ?
Pas du tout.
Tu t'en fous ?
Non, pas du tout. Au contraire, de toute façon, entre PlayStation et Xbox, moi j'ai déjà choisi mon camp, ce sera la PS5, c'est clair. Par contre, je suis pas du genre early adopteuse. Je suis plutôt à regarder comment ça se passe chez les autres avant d'acheter en tout cas les machines comme ça. Donc je vais attendre un petit peu et puis en fonction de la sortie des jeux, si vraiment il y a un truc qui me hype. En général, c'était un jeu qui déclenche mon achat. Donc,
j'attends
un petit peu. Ouais, j'attends un petit peu. Je vais voir si ça se passe bien ou pas trop bien chez vous. Je sais pas ce que je vous souhaite.
Écoute, on verra si on aura les rapports de Finlande et de Paris avec les queues dans les magasins. Moi, c'est mon petit village. J'espère qu'il va pas y avoir tout le village qui va se rameuter. Bon, je vais arrêter de taper dans le micro et on va se lancer dans l'émission, donc, proprement dite. Je vais faire un truc qui est inspiré d'un podcast anglophone que j'écoute, qui s'appelle DLC. Comme il n'y a pas un gros sujet, enfin, c'est tranquille pour les news après 4 semaines totalement folles, il n'y a pas un énorme sujet qui ressort, je vais vous demander à vous quel est votre sujet de la semaine. On a quelques infos pour la PS5, quelques infos de chez Nintendo et l'annonce de la fermeture des locaux de Blizzard à Versailles qui a des conséquences intéressantes. On va commencer avec l'invité d'honneur, à savoir Daniel. Quel est pour toi
Je ne suis pas l'honneur, moi je laisse Escarina.
Ouais, ok.
elle a passé 9 mois... 9 mois qui peut-être...
À réfléchir à cette question.
À réfléchir à cette question, et surtout, c'est clairement la plus méritante d'entre nous. Trois. Donc, je laisse complètement Escarina choisir. Je te dis un truc, je te laisse choisir tout.
Vas-y, dis-nous tout. Entre ces trois sujets, quel est celui qui te paraît être le sujet de la semaine ?
Tu nous laisses le choix entre quoi et quoi ?
Ah là là, mais il faut suivre les gars, ça fait pas professionnel du tout là. Les auditeurs vont rire de mon podcast. On a les news PlayStation 5, les news Nintendo ou l'info que Blizzard Paris va fermer.
On va parler de Blizzard. Parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur.
Je pensais, tu vois, je voulais pas dire que c'était le sujet le plus important. Je pense mais pas que ça soit le sujet
c'est
le plus important.
Sujet, t'as complètement, Escarina a 10 000 fois raison.
Ok, très bien. Eh bien, écoutez, Blizzard ferme ses locaux parisiens. Et pour moi, c'est quelque chose d'évidemment important. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé chez Blizzard pendant un moment. Et puis, il y a toute cette spéculation entre la relation qu'il y a entre Blizzard et Activision depuis quelque temps. Je vais sans doute faire un petit cœur à cœur, tête à tête sur YouTube pour vous en parler un petit peu plus longuement. Mais là, en gros, pour résumer, ce que ça me... m'évoque, c'est que on n'avait pas vraiment de preuves concrètes du changement de relation entre Blizzard et Activision ces dernières années. Il y avait beaucoup de spéculations. Et là, entre l'annonce de Mike Morhaime, ancien président de Blizzard, qui avait démissionné il y a 2 ans et qui a désormais lancé une nouvelle boîte de jeux vidéo, et pour le lancement, il avait fait des citations qui étaient très clairement dirigées à l'encontre d'Activision en disant « Ah, nous, on veut un endroit où on est libre de notre créativité et tout ça ». Donc, entre ça, d'une part, et l'annonce de la fermeture des bureaux de Blizzard à Paris, je crois que c'est des signes qui sont difficiles à ignorer de l'évolution, du changement de la relation entre les deux entités. Il ne faut pas oublier que Blizzard Entertainment est une société séparée qui appartient à Activision Blizzard, qui est donc la société qui chapeaute le tout, Activision Blizzard King désormais, avec King qui est un gros acteur du jeu mobile. Et ce qu'on voit là, la chose qui marque le plus dans cette décision, c'est que Blizzard a toujours été une société indépendante qui a très à cœur de faire les choses eux-mêmes. Que ce soit la communication, la confection des objets de merchandising, la confection des Collector's Edition. Moi, j'y ai travaillé pendant 5 ans et effectivement, tout le pouvoir était dans les mains des développeurs à Irvine et ils décidaient d'absolument tout. C'était d'ailleurs handicapant parfois. Aujourd'hui, les bureaux de Paris, qui sont le QG européen, vont fermer et les postes vont être rapatriés à Londres, qui est le QG d'Activision Blizzard King. Et du coup, ils vont consolider tous les rôles. Et moi, ce qui me met un petit point d'interrogation, c'est comment est-ce que cette relation entre les développeurs et les fonctions de support, marketing, PR, etc., comment est-ce qu'elles vont évoluer ? Parce que les développeurs chez Blizzard, ils ont l'habitude de tout contrôler, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, ni dans le reste de l'industrie en général, ni chez Activision. Généralement, c'est le pôle produit et le pôle marketing qui ont un équilibre à trouver, mais en général, dans l'industrie, dans toutes les industries, c'est le pôle marketing qui prend les décisions. Chez Blizzard, c'est le pôle développement, le pôle produit qui prend les décisions. Est-ce que ça va pouvoir continuer ? Au minimum, ça va faire bizarre aux gens d'Activision Blizzard quand les développeurs d'Irvine vont leur dire « Non, non, le jeu n'est pas prêt, on ne le sort pas ». Est-ce que ça va passer ? Évidemment, la décision revient à Bobby Kotick. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer au final. Mais ce qui est indéniable aujourd'hui, je crois, et vous savez que depuis... J'aime les choses concrètes, j'aime les informations factuelles. J'adore pas spéculer sans base concrète. Donc, j'étais assez réticent à dire qu'il y a une influence d'Activision sur le fonctionnement de Blizzard depuis des années, alors qu'il y a des gens qui en parlent depuis longtemps. Mais là, je crois que, factuellement, il est indéniable que ça se produise, ça soit en train de se produire. Donc, voilà. Après, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en conclure, mais c'est il y a aujourd'hui des bases concrètes, quoi. Donc...
Ça fait un moment que la situation avait commencé à se dégrader pour ce studio-là à Versailles, parce qu'il y avait des départs qui n'avaient pas été remplacés, et je pense même qu'il y a certains départs qui avaient été encouragés ces 2 dernières années, si je ne dis pas de bêtises.
Tu as tout à fait raison, il y a eu un plan social l'année dernière qui concernait l'ensemble de Blizzard, mais ce n'était pas la première fois, tu sais, moi quand j'y étais il y a Ça devait être il y a 8 ans qu'il y avait eu le dernier plan social. Et il était plus ambitieux encore que celui de l'année dernière. Et il avait eu lieu sous l'égide de Mike Morhaime.
J'ai du mal à entendre plan social ambitieux. Excuse-moi, c'est dur pour moi.
Si ce que je veux dire, c'est qu'il était plus large que celui de l'année dernière. Il y avait plus de personnes qui avaient perdu leur emploi. Et il avait eu lieu sous la présidence de Morhaime. Alors peut-être qu'on va dire, sous Morhaime, c'était parce que Bobby Kotick l'a obligé. Mais une explication qui est à mon sens plus logique, c'est qu'il n'y avait pas assez de jeux qui sortaient sur ces moments-là pour maintenir les mêmes niveaux de revenus. Et on peut reparler des jeux à l'instant, mais dans un instant, mais tu as tout à fait raison, Eska. Il y avait déjà eu ce plan social et l'avenir de la société à Paris était peut-être incertain, mais en même temps, ils auraient pu la garder. Comme je disais, c'était en 2012, je crois, il y avait eu un plan social et la boîte a continué. Donc, je ne sais pas.
Après, est-ce que les conditions de relocalisation proposées aux employés versaillais sont moins acceptables, parce que c'est bien de travailler à Londres, mais c'est quand même une des villes les plus chères du monde, si c'est pas là.
Mais je t'arrête tout de suite, Eska, ils vont pas y aller. Hein. Moi, je te garantis, personne va y aller.
Je veux juste dire un truc sur ce sujet épineux. J'ai clairement pas le know-how de la société comme toi, parce que toi, tu y as bossé. Et puis même en tant que joueur, je suis pas client des produits Blizzard, à l'exception de temps en temps, je me fais un Diablo 1 de temps en temps. Mais... Non, j'exagère un peu parce que Activision a quand même produit Sekiro, qui est quand même un des jeux de l'année, un des jeux de cette décennie même, j'ai envie de dire. Mais il y a un truc, le plus important, c'est qu'il faut envoyer tout notre soutien possible et à tous les employés qui vont se retrouver au chômage, qui vont être licenciés par une mesure évidemment c'est le classique. Toi, tu disais, tu parlais d'un ambitieux plan social. À chaque fois que j'entends plan social, c'est pas ambitieux. C'est vraiment...
Non, mais attends, Daniel, ce que je voulais dire, c'est que le plan social de l'année dernière, il faisait une certaine taille. Celui d'avant, il était plus large. C'est ça ce que je voulais dire. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit.
Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, ce que je veux finir, c'est que évidemment, c'est une manœuvre pour remonter la valeur boursière. J'imagine qu'ils ont été très inquiétés ces dernières années, parce que oh là là, ça devait aller très très mal chez Blizzard. C'est de la pure stratégie. Et en même temps, le choix de Londres par une période de post-Brexit, je pense pas que ça soit le truc le plus malin qu'une entreprise peut faire en ce moment. Genre, ils auraient dû, genre, au moins, même pas par respect pour les employés, mais au moins attendre la fin de la crise, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc pour rendre heureux leurs actionnaires. Et c'est moi je trouve que à chaque fois que je vois ça, c'est une manière dégueulasse de gérer une entreprise. Alors que le pouvoir passe du créatif et de côté Blizzard, c'est-à-dire ce côté que d'ailleurs on retrouve chez CD Projekt, ce côté le jeu il sortira quand il sera fini et voilà. Ce qui est une super démarche artistique, mais oui bien sûr c'est compliqué à gérer quand t'as un pôle marketing qui te dit ah non le jeu il doit sortir pour décembre pour la fin de l'année. Oui évidemment ça va changer, c'était inévitable. Ce que je trouve regrettable, c'est que tout ça se fasse sur le dos, encore une fois, des travailleurs, des employés. C'est jamais bénéfique. Et bien entendu, ça améliorera ni le service, ça améliorera ni la qualité intrinsèque de l'entreprise. Tout ça, c'est de la moi je suis dégoûté pour
déplacement de pion, quoi.
Voilà, je suis dégoûté pour tous les gens qui sont impliqués là-dedans. Il y a des entreprises qui ont bougé des pôles et qui même ont des pôles en Angleterre, hein, mais ça se passe plutôt bien. Le seul truc, c'est on peut s'interroger sur la pertinence de le faire maintenant et puis de la manière de le faire. Voilà, moi je n'ai aucune connaissance intrinsèque de la société de lutte de pouvoir et tout ça. Moi, je me place que du point de vue des gens qui y travaillent.
Bah, tu sais, moi, les gens qui y travaillent, c'est pour beaucoup des anciens collègues. Et puis,
bah ouais.
Même au-delà de ça, c'est une partie de mon histoire et de l'histoire du jeu vidéo en France qui est amputée. Donc forcément, ça me touche. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Oh, faut penser à machin, à ceci ». Je veux dire, de tous les gens qui vont commenter cette histoire, il y en a peu qui sont aussi... Je ne veux pas dire touchés, parce que je ne veux pas manquer de respect à ceux qui y travaillent encore, mais je veux dire, c'est des gens que je connais. Donc, ceux qui sont plus touchés, c'est ceux qui y travaillent, mais les anciens, ça les affecte forcément émotionnellement. Donc, évidemment, moi, c'est un truc que je ressens, c'est clair, parce que c'est un truc qui va disparaître. Ça va, c'est un endroit à la fois physique et émotionnel qui va juste plus exister. Et c'est compliqué émotionnellement à comprendre et à gérer. Évidemment, au niveau business, ça a du sens parce que tu as trois sociétés qui font des jeux vidéo. Bah, l'idée de les réunir sous les mêmes... tu vois, tu peux payer trois personnes qui font du marketing pour trois boîtes différentes qui, entre parenthèses, n'ont pas énormément de boulot. Ou alors, tu en payes une ou deux pour faire le même boulot. Au niveau business, c'est cohérent. Mais justement, si on parle un petit peu de cet aspect, il y a un élément que j'aimerais relever. Est-ce que vous savez... Alors, ils ont sorti des extensions pour World of Warcraft chez Blizzard. Ils ont aussi sorti un jeu qui est sans doute le plus gros indice sur la qualité du boulot qu'ils font, qui est Warcraft 3 Reforged, en début d'année, qui a été complètement, disons, qui est sorti dans un état assez inacceptable et qui a, je crois, pas été énormément amélioré. Donc, ça, c'est un élément à prendre en compte. Mais c'est pas non plus un gros, gros jeu. Est-ce que vous savez depuis combien de temps ils n'ont pas sorti de gros jeux?
3 ans peut-être.
Ouais, j'aurais même dit 5-6 ans.
Ça fait pas 5-6. Overwatch est sorti en mai 2016. Ouais, on 4... est donc ça fait 4 ans et demi.
J'avais oublié qu'Overwatch est un jeu Blizzard.
4 ans et demi, et d'après les signes qu'on peut voir, il n'y a pas de jeu qui va sortir avant au minimum 6 mois. Peut-être plus. Donc, on sera à peu près à 5 ans sans aucun gros nouveau titre. Et moi, vous savez que j'aime bien voir les choses sous tous les angles. Et j'espère que vous avez compris que, clairement, l'influence d'Activision sur Blizzard semble être maintenant avérée. Mais, ah oui, et entre parenthèses, ils ont repoussé, alors peut-être pas de beaucoup, mais la sortie de World of Warcraft Shadowlands, qui devait être... publié dans 2 semaines, il a été retardé à on ne sait pas quand, sans doute avant la fin de l'année quand même, mais ils prennent un petit peu plus de temps pour le développer. Quand on pense à Activision, on revient au côté business, quand on pense à Activision, on pense à une société, l'image négative habituelle d'Activision, c'est une société qui veut sortir des jeux, on s'en fout qu'ils soient finis ou pas, tous les ans, pour se faire l'argent de l'année. Ben là, je suis désolé, mais ça ne colle pas tout à fait. Je ne parle même pas de Diablo Immortal, qui est certes un jeu mobile, mais dont on a entendu parler il y a plus de 2 ans et qui aujourd'hui est aux abonnés absents, et qui est visiblement, clairement, repoussé parce qu'il n'est pas encore prêt. Donc ça, c'est une attitude qui colle beaucoup plus avec l'éthique blizzardienne, de se dire bah, « les jeux, on ne va pas les sortir tant qu'ils ne sont pas prêts ». Ok, il y a quelques exceptions, mais les extensions, c'est pas pareil, parce que les extensions de World of Warcraft, d'une part, World of Warcraft, c'est toujours gros, mais enfin, ça décline régulièrement. Et puis, les extensions, il y en a eu des très mauvaises avant. Je veux dire, il y en a eu des très mauvaises tout au long de l'histoire du jeu. Donc, il y en a des mauvaises, il y en a des bonnes. En 2016, Légion, c'était l'une des meilleures extensions de l'histoire, si ce n'est la meilleure extension de l'histoire du jeu. Mais là, ils sont quand même en train d'attendre énormément pour sortir les jeux. Si on avait Bobby Kotick qui vient frapper à la porte de Jay Allen Brack tous les jours en disant « Attends, là, il me faut mes 50 millions pour le mois de mars », ils auraient sorti des trucs, ils auraient sorti des jeux. Alors peut-être que Kotick est en train d'aller frapper à la porte de Brack pour lui dire tu dois sortir un truc, et lui, il résiste, c'est possible. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que au niveau de la qualité des jeux, moi j'attends encore de les voir pour voir ce que ça va donner, quoi. Parce que on sait pas. Et une boîte qui ne sort pas de jeu pendant 5 ans, enfin, je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire.
Ça s'appelle Rockstar.
Tu vois, c'est
alors, tu veux que je te dise, juste pour rebondir dessus, parce que moi, encore une fois, je suis pas du tout l'expert en Blizzard, du tout, pas du tout la bonne personne. Mais par contre, j'ai déjà parlé à des employés de Rockstar et qui m'ont dit, c'est pas humain en fait, une entreprise qui sort un jeu tous les 4 ans, tous les 5 ans, parce que ça ajoute une pression colossale aux gens qui travaillent dedans. On parle beaucoup de crunch, de mauvaises conditions de travail, de pression, de voilà, enfin vraiment les mauvaises conditions de travail, elles sont accentuées parce que une entreprise devrait, tu sais quoi, je me disais mais qu'ils sortent un jeu de ping-pong Rockstar comme avant quoi, enfin, et qu'ils sortent des trucs pour juste lâcher un peu la vapeur de la pression de cette société qui se dit bah on va sortir un GTA 6, ça va être le jeu le plus marquant de la décennie et on va en sortir qu'un seul. C'est pas humain pour les employés de travailler à plein temps sur un jeu mobile pendant 3 ans ou mais... voilà, ça me paraît absurde en termes de ce que tu veux et même ce que tu veux proposer aux gens quoi, toute une génération de joueurs. Mais... qu'est-ce que tu leur proposes à part un jeu tous les 10 ans quoi.
Mais alors excuse-moi Daniel, mais je vais te t'associer à l'ensemble de l'internet et dire les gens, hashtag les gens, sont jamais contents. Quand on sort, en fait, il faudrait sortir un jeu de la qualité super peaufinée, incroyable, meilleur par an, pour que les gens soient contents. Si tu sors trop de jeux, les gens ne sont pas contents parce que tu ne les sors pas finis. Si tu sors pas assez de jeux parce que tu prends le temps de les finir, les gens ne sont pas contents et en plus, ce n'est pas humain. Je me place que
du point de vue des gens qui y travaillent. Blizzard, je t'ai dit encore une fois, je ne suis pas consommateur de Blizzard. Mais le seul truc, c'est qu'humainement, c'est dur à gérer. C'est dur à gérer, ça ajoute une pression supplémentaire. Ça fait que tout d'un coup, les budgets sont démultipliés sur un projet, alors qu'ils pourraient être dispatchés sur plusieurs. Et un jour, ce que je ne souhaite pas, enfin, on aura la situation des blockbusters américains où tout d'un coup ils savent plus comment sortir leur jeu et ça va être une énorme perte, enfin ce que je ne souhaite pas, hein, mais voilà.
Je te rassure,
ton entreprise devient trop dépendante de un ou deux titres et c'est compliqué à gérer.
Je crois que Rockstar est dans une situation effectivement particulière parce qu'ils ont qu'un jeu tous les 5 ans. C'est pas le cas de Blizzard jusqu'à maintenant. Ils avaient plusieurs projets, plusieurs jeux qui sont en service. D'ailleurs, enfin, Rockstar, ils ont aussi Grand Theft Online. Mais Blizzard, normalement, ils ont plusieurs studios. C'est pas normalement. Ils ont plusieurs studios qui travaillent sur plusieurs jeux différents. Donc, c'est pas tout à fait la même situation, mais je comprends ce que tu veux dire. Les trucs à la CD Projekt et à la Rockstar. Oui, pardon, Eska ?
Non, j'allais dire, ils nous ont toujours habitués à cette politique de sortir un jeu when it's done et de faire des reports, etc. Donc c'est vrai que dans le contexte, c'est pas ultra choquant, enfin, vis-à-vis des habitudes de Blizzard, on va dire. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose de plus en plus de questions aussi sur les conditions de travail des employés. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise de jeux vidéo où il y avait des gens qui travaillaient sur le même projet depuis 10 ans. C'est vrai que les gens sont épuisés à la fin et il faut provoquer un peu de turnover sur les projets. Mais c'est pas évident, c'est un sujet compliqué. Hein.
Quand les gens s'ennuient dans le travail, ça donne Kerviel. Hein. Les gens, ils s'emmerdent, alors ils font n'importe quoi au bout d'un moment.
Vous l'avez entendu ici, Blizzard, prochaine Société Générale, Kerviel. Écoutez, on va passer à un sujet peut-être un petit peu plus léger. Avant ça, je voudrais quand même remercier, j'ai oublié de remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Honte à moi, honte à Patrick. Je voudrais remercier les gens qui soutiennent le rendez-vous jeu, notamment Frédéric Alfieri, Jérémy Copino, Christophe Fontaine, Hugues Agius, Arakin, Jérôme Guyot, Guil, Florian Cody, Atina GRDS, Kaoru et les producteurs de cette émission. Les producteurs spéciaux qui sont Stéphane Grégory Sata, Davizar Lancelot et Bazou 42. Ce sont les producteurs et je les remercie très chaleureusement. Si vous savez pas ce que sont les producteurs, et ben c'est un truc secret. il est désormais possible de soutenir l'émission en euros. Et le site Patreon est en français. Donc, si vous attendiez que les euros soient disponibles sur Patreon, vous pouvez y aller parce que c'est possible. Et il y a 3 niveaux. Je l'ai simplifié. Il y a 3 niveaux simplement qui sont très, très simples avec des récompenses super cool. Et peut-être un niveau en plus secret qui est très difficile à trouver, qui est peut-être en rapport avec la question de la production. écouter, je sais pas. Vous pouvez aller voir sur patreon.com/rdvjeux si ça vous intéresse, si vous appréciez l'émission et que vous voulez la soutenir. Et le lien est bien sûr dans les notes.
Je bois tes paroles, je prends des notes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le lien est dans les notes de l'émission. Alors, sujet un petit peu plus tranquille, allez, un petit peu plus consensuel. Est-ce que je vais... Bon, maintenant, c'est à ton tour, hein, Daniel. Je pense savoir ce que tu vas choisir, mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on parle de PlayStation 5 ou de Nintendo ?
On va parler de Nintendo. PlayStation 5. Je vois les sujets PlayStation 5 qui sont de l'ordre du « Alors, est-ce qu'elle fait du bruit ?»
On s'en fout. Ça va aller.
Alors, est-ce qu'elle est lourde ? On s'en fout. Attends, est-ce qu'il y a Yakuza 7 ? Bon, super, on s'en fout. Super jeu d'ailleurs, je recommande.
Parce que toi, tu y as déjà joué, c'est ça, oui.
J'ai déjà platiné, ouais. C'était mon jeu. C'est un de mes jeux de l'année. Il est sorti en janvier au Japon, ouais.
Très bien. Peut-être que tu pourras nous en parler aussi.
Voilà, je t'ai tout résumé, les news PlayStation 5, le système de trophées, on s'en fout. Voilà, parlons de Nintendo.
Je reparlerai un tout petit peu. Non, mais tu sais quoi ? Tant qu'à faire, c'est bien fait pour toi. On va parler très rapidement de la PlayStation 5, du coup, puisque tu as fait toutes les news. Mais ça va aller vite. Il y a eu, en fait, pas un unboxing, mais un teardown de la PlayStation 5 qui a été posté par Sony directement. Et on a vu l'intérieur. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il y a un gros ventilateur qui refroidit très bien. Il y a du métal liquide pour refroidir le processeur. Donc ça, c'est totalement fou. Et quoi d'autre ? Dans les autres news de...
Il y a le T-1000 dans la console.
C'est ça, exactement.
C'est exactement ça, ouais.
Y a des images de NBA 2K qui sont... 2K1, pardon, qui sont assez impressionnantes, je trouve. C'est les visages, surtout, qui sont franchement impressionnants. C'est de la next-gen, et puis il y a du ray tracing qui fonctionne pas mal. Bon, après, c'est un jeu de basket, donc quand c'est en jeu, c'est un petit peu moins impressionnant, peut-être. Les animations reste des animations de joueurs, c'est pas photoréaliste au niveau des animations, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre au niveau de la PlayStation 5 ? Ah oui, Astro's Playroom, c'est le jeu qui est inclus avec la console, qui vous fera entre 4 et 5 heures de jeu, qui sera préchargé sur les PS5 et qui explore les capacités de la console. Quoi d'autre ? Oui, il y a un revamp des trophées, comme tu disais, on s'en fout un petit peu. Je crois qu'il n'y a pas... Ah oui, et le son surround qui arrivera sur téléviseur après... le méga surround qui arrivera sur téléviseur après la sortie de la console, sans doute en début d'année prochaine. J'ai l'impression que ça ne vous marque pas plus que ça, donc on n'a pas besoin de passer plus de temps que ça dessus.
Ça semble assez anecdotique. Juste le son surround, du coup, j'imagine que c'est du traitement 100% logiciel.
C'est ça, c'est l'heure. On a entendu un mogwai, là. Non, mais c'est très bien, ça anime. C'est ce fameux son, comment il s'appelle ? Tempest, Hurricane 3D.
J'ai entendu uriner.
Non.
Tempest urinale.
Tempest urinale, qui est le moteur 3D qui est censé faire un truc complètement fou avec tes oreilles. À voir si ça marchera, si ça sera vraiment intéressant.
Et j'ironisais, je blaguais dessus, mais c'est vrai que c'est important de savoir si la console va être silencieuse. On tient à rassurer tous les futurs possesseurs de PS5. Elle sera silencieuse les deux premières semaines, rassurez-vous.
Écoute,
parce qu'après c'est bon, c'est un hélico qui décolle, comme d'habitude.
Il y a un petit trou dans le châssis pour utiliser l'aspirateur pour virer la poussière. Peut-être.
Les robots, ils arrivent pas à absorber la poussière tout seul, alors je pense que ta PS5,
c'est un vieux rêve. Que j'y crois non, pas ça, trop ça trop montre, non plus.
Ça montre au moins qu'ils ont pris le problème en compte, vu qu'ils en parlent.
Mais Karina, tu as raison, mais tu sais quoi, de toute manière, ils vont se vautrer quelque part, on sait pas. Est-ce que
on
ça sera
pas
le Joy-Con Drift ? Est-ce que ça sera... Est-ce que... Toutes ces consoles, ça sera le retour du Red Ring of Death, enfin... toutes les premières générations, les premières fournées, c'est toujours la même.
C'est sûr que tu peux l'acheter Day One. Hein.
Mais moi, c'est du travail. Pour moi, c'est du travail.
C'est pour ça.
Et puis, en plus, je suis streamer, donc c'est quand même, pour moi, Demon's Souls est quand même un jeu fondamental. Voilà.
Écoutez, maintenant qu'on a fait le petit détour obligatoire par la PlayStation 5, dont on sait qu'elle sera a priori silencieuse les deux premières semaines, c'est mieux que rien en même temps. Quand on entend la PS4 Pro que j'ai là dans le fond, ça fait un petit peu peur. Parlons donc de Nintendo, comme promis. Il y a eu pas mal de choses du côté de Nintendo. Plus d'informations sur Zelda, comment il s'appelle le prequel en Dynasty Warriors de Breath of the Wild? L'ère du fléau en français. Donc, plus d'infos là-dessus. Il y a une démo d'ailleurs de Pikmin 3 qui est disponible sur l'eShop si ça vous intéresse, Pikmin 3 Deluxe. On a eu plus d'infos sur Mario Kart Live, la version en réalité augmentée avec des vraies voitures de Mario Kart qui se connectent à votre Switch. On a Steve de Minecraft qui arrive dans Smash Bros. Et quelques petits autres trucs en plus. Et forcément, je me retourne vers Daniel. J'imagine que c'est l'ère du fléau qui t'a complètement hypnotisé.
Alors, attends. L'actuelle maman que Scarina, je pense que toutes les news Nintendo, elle va les boire pendant les 10 prochaines années, puisque Nintendo quand même pense à nos gosses. Je veux dire, quand tu vois des trucs comme Mario Kart Live, genre c'est évidemment pas pour nous, mais écoute, je me suis moqué de toi avec ton Game & Watch. C'est vrai que je me suis un petit peu moqué. Le Mario Kart Live, je me le suis pris. Tu sais, j'allais pas bien, j'étais malade, j'étais à la maison. Et tu sais, j'étais là, j'étais sur un machin et je fais « Ah, écoute, si je me prends en version Luigi, peut-être que ça passera mieux. » J'ai clairement pas la place de le prendre. Mais voilà, je me suis fait avoir... j'ai été client de Nintendo sur ce coup-là, j'assume complètement.
T'as été gentil.
Je sais pas, écoute, ça a l'air d'être quand même de la bonne techno. Et puis, tu sais, moi, je suis un peu un nostalgique des circuits TCR qu'on avait quand on était gamin. Donc, je suis partant. Et j'ai vraiment envie de... Alors, l'argument, c'est je vais jouer avec mon gamin. Mon gamin, il a 9 mois, il en a rien à foutre. Mon gamin tu lui achètes des super jouets et il joue avec un paquet avec une boîte de Kleenex et une bouteille. Il s'en
doit. Je comprends. Tu
leur achètes des trucs en bois super classe.
Ça coûte quand même 100 euros pièce. Hein, et tu vas avoir qu'une voiture ou t'en as pris deux?
Alors, s'il te plaît, ne remue pas le couteau dans la plaie.
T'en as pris deux?
Voilà. Non, je n'ai pris qu'une.
Ça, ah, d'accord, ok.
Non plus. Faut pas décoller.
Non, parce que du coup, pour faire la course, il faut faire la course avec son pote qui est aussi en voiture. Mais là, bon.
Écoute, j'ai un très bon ami qui a une boîte de podcast en Norvège, très très loin. Je compte sur lui.
La Finlande.
Pardon.
Écoute, moi, comme je vis à la campagne, très loin de tout, j'ai des pièces qui sont assez grandes pour, mais je t'avoue que tout mon argent Mario Kart Live a été investi dans une Game & Watch. Donc, je ne sais pas s'il en restera.
Ouais. C'est un peu le revival de, comment ça s'appelait, Nintendo Lab, ce projet-là.
Nintendo Labo, ouais. C'est ça. C'est Nintendo dans la même veine.
Alors, du coup, moi, je me demande surtout, c'est est-ce qu'elles vont être costauds, ces petites voitures avec leurs caméras? Parce que si à chaque fois tu débourses 100 euros pièce, tu vois, justement, je me mets à la place d'un enfant qui risque de l'utiliser comme une petite voiture classique et de jeter ça un petit peu partout sur les murs. Et bon, je me fais peut-être une idée absolument désastreuse.
Non, t'as bien raison, c'est tout à fait ça.
Ah, je pense que c'est virtuel même là.
Ouais.
Donc voilà, et puis s'ils le mettent à la bouche, tout ça, est-ce que ça va être childproof cette histoire?
Ça a intérêt. La construction, les voitures ont l'air un petit peu moches, franchement. Assez basiques en tout cas, je pense qu'on peut dire ça. Peut-être assez solides, justement, et c'est pour ça qu'elles ont l'air basiques. Mais la construction du truc, parce que c'était quand même ça les nouvelles infos, c'est pas bête. On a quatre portes à passer et on les place dans la pièce et ensuite on fait un premier tour avec la voiture qui est contrôlée par la Switch et ça dessine le circuit. Donc on peut dessiner un petit peu le circuit qu'on veut et à partir de là, tout s'affiche en réalité augmentée sur la Switch quand on fait la course avec la voiture et on peut même changer le visuel du kart. C'est-à-dire que quand un autre kart, il faut en avoir deux, mais quand un autre kart va voir votre kart, on a eu des exemples, on peut avoir un Mario Cowboy qui est dans le kart, on peut avoir un kart en bateau pirate, un kart cartes en tractopelle. Ça, c'est le truc préféré de mon fils.
C'est la plus belle chose qu'on ait dit de tout ce podcast. Carte tractopelle.
C'est des trucs qui sont uniquement en surimpression. Donc oui, tu le verras parce que tu vois l'avant de ton carte en réalité augmentée. Mais je reste quand même un petit peu sceptique sur ce truc. Ça a l'air bien fait, hein, mais je reste un petit peu sceptique. Bon, on va pas faire toute la partie Nintendo sur le carte. Tu voulais ajouter un dernier truc peut-être ?
Non, absolument pas. J'ai hâte de savoir si on pourra faire des reliefs. Parce que c'est la différence entre Super Mario Kart et Super Mario Kart 64, c'est qu'ils ont rajouté des reliefs. Donc j'ai envie de savoir si je pourrais genre mettre des BD pour faire une aile de lancement ou un truc avec des.
Ah,
avec des
tu veux dire des.
Je ne pense pas.
Des dénivelés, ce genre de choses.
Ouais, exactement.
Ah oui, non, je pense pas, non, parce que.
Je pense que c'est trop ambitieux. Il faudra attendre la version Switch 2 là.
C'est non, mais par contre,
Mario Kart
pense
Live Deluxe.
Où tu as besoin d'aller voir sous un meuble parce que tu as perdu quelque chose, et ben voilà, tu auras ta petite voiture pour,
c'est vrai
pour
que...
aller voir sous ton meuble de cuisine.
Non, mais c'est vrai que ça ne sert pas que à faire de la course, ça sert aussi comme voiture télécommandée avec caméra, avec tous les bons et les mauvais usages qu'on peut imaginer. Je viens d'avoir des idées assez terrifiantes. J'espère qu'elle fera un petit peu de bruit, cette voiture, quand même.
Amazon qui vient de sortir son système de drone de télésurveillance d'intérieur, bah pas besoin, t'achètes ton carte,
exactement.
Ton petit carte Nintendo et tu fais fuir les voleurs à la maison en leur fonçant dessus avec
avec ta Switch. Bon, l'autre truc qui est quand même un petit peu plus gros morceau, c'est pas forcément le café Nintendo de la zone du parc à thème, là, c'est le Universal qui a été présenté aussi, c'est pour moi, le jeu que je n'attendais pas vraiment et qui, au final, je crois, risque de me séduire, Age of Calamity, donc l'ère du chaos, de la calamité, du chaos, le jeu de Zelda en prequel qui va vous donner la possibilité de jouer en action à Zelda. Donc c'est un Destiny Warriors. Vous savez, c'est ces jeux où on joue avec des...
Dynasty.
Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit ?
T'as dit Destiny.
Non, Destiny, tu sais, Bungie a envahi mon cerveau. Dynasty Warriors, et donc c'est un jeu de combat à l'épée où on est 1 contre 100, 200, 800, 1000, et qui reprend les graphismes de Breath of the Wild. Je pensais pas, mais ça me séduit pas mal, en fait. Et ça a l'air très Zeldaïsé. J'imagine que toi, t'es carrément à fond, là, déjà, sur... Tu t'en peux plus, Daniel.
Alors, moi, je suis un fan des Dynasty Warriors et des Musou. J'étais pas fan du premier, en fait. Le premier, je trouvais assez loupé, parce qu'il essayait trop d'être un Zelda. Il y avait des
le Hyrule Warriors, tu veux dire ?
Ouais, il y avait des énigmes qui ralentissaient énormément l'action. Alors que, justement, ça devrait être plutôt l'action qui doit guider le jeu. Et c'était le premier m'avait vraiment déçu du point de vue ce qu'on appelle Musou, donc Dynasty Warriors, alors que Fire Emblem était vraiment plus intéressant, justement. Et là j'y crois à fond, parce que je pense que d'abord de tous les setups de Zelda, c'est celui de Breath of the Wild qui m'intéresse le plus, en fait. Je trouve que la direction artistique est la plus belle, je trouve que l'environnement est le plus beau, je trouve que les personnages sont présents sans être chiants, alors que souvent c'était ça le problème des derniers Zelda, c'est que t'es des personnages que t'as rien à foutre, qui te parlent pendant des heures et tout. Alors que là, on t'enquiquine pas, en fait. On t'enquiquine pas. Bref, j'adore Breath of the Wild. Vraiment, je trouve que c'est un des grands jeux de cette génération. Et du coup, de voir vraiment un jeu de commande, en plus, c'est Zelda qui... Enfin, c'est Nintendo qui a demandé à Koei Tecmo de ouais, alors, écoutez, on a le template de Breath of the Wild, ça serait bien de faire un jeu avec. Et je trouve ça génial, en plus, de faire une préquelle, que ça se passe avant et que tu sais que ça va mal se terminer, puisque Breath of the Wild est un jeu post-apocalyptique. Je trouve ça génial. Voilà, non, je suis day one là-dessus. Je suis day moins 10 déjà. Je suis à fond, fond dessus. Quoi.
C'est le 20 novembre qui sort, si je ne m'abuse. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est bien ça. Hein. Moi, je suis un petit peu comme toi. A priori, Destiny Warriors, je ne suis pas forcément client. Bon, Breath of the Wild...
T'as encore redit Destiny Warriors ? Mais c'est ouf !
Tu sais qu'en le disant, j'y pensais, je me disais « Ah, faut pas que je me plante ce coup-ci. » Ouais, donc, c'est... Dynasty Warriors...
Comment tu fais pour les prénoms ensuite dans la vie ?
Mais écoute, Arthur, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Ça se passe très bien. Donc,
t'as vu la vie cachée de Patrick Béja.
Dynasty Warriors, c'est pas mon truc, mais j'avais beaucoup aimé le Dynasty Warriors Dragon Quest, qui était vraiment sympa, bien foutu. Comment il s'appelait déjà, Dragon Quest, je sais plus.
C'est le Dragon Quest Musso, c'était... merde, je devrais le savoir, tu me prends... C'est
Réfléchis-y et bon, merde, en fait, je suis sûr que la chatroom sur Twitch va nous le rappeler.
Non, mais c'est ouf, parce que je rappelle un truc, c'est que j'ai écrit un livre sur Dragon Quest en plus.
Mais moi, c'était
Dragon Quest Heroes.
L'année.
C'est Dragon Quest Heroes.
Très bien, merci.
Dragon Quest Heroes 1 et 2, et le 1 était vraiment mieux que le 2.
Et du coup, c'est effectivement un truc, tout ce que tu as dit, moi je crois que oui, je vais être client. Et en plus de tout ce que tu as dit, il y a un truc qui me donne encore plus envie, c'est que tous ces trucs et tous ces personnages qui existaient dans le passé de Breath of the Wild, du monde de Breath of the Wild, je suis sûr qu'on va en retrouver certains dans Breath of the Wild 2 qui sortira sans doute l'année prochaine. Et du coup, ça contribue encore plus à cette mythologie de Breath of the Wild, de ce Zelda, qui est séduisante et qui lie tous les jeux ensemble. Enfin, je sais pas, c'est vraiment le truc qui est intéressant par tous les aspects, Breath of the Wild, que ça soit les graphismes, l'histoire, alors que c'est très simple, hein, mais ils ont réussi à créer quelque chose avec le jeu qui est unique et qui est attrayant, que ce soit dans l'univers, dans la nostalgie qui est vraiment... C'est ça qui est fort, en fait, c'est que dans le jeu Breath of the Wild, il y a une nostalgie pour cette époque qu'on voit même pas, qu'on n'a pas connue, mais du coup, te proposer de l'explorer, c'est magique, et du coup, te proposer de voir des choses qu'on va sans doute, j'imagine, hein, c'est pas sûr, mais retrouver dans le Breath of the Wild 2 plus tard, avec des personnages ou des lieux, ou c'est une stratégie vraiment hyper maligne et qui, oui, je suis d'accord, moi, ça fonctionne pour moi.
C'est mon setup c'est mon background de Zelda préféré.
Ouais, je pense qu'on est d'accord. Bon, alors, écoutez, je pense qu'on va passer à nos news et rumeurs un petit peu plus rapides. Je voudrais juste vous demander si vous avez des jeux auxquels vous jouez en ce moment, s'il y a des trucs dont vous voudriez parler, que vous voudriez recommander. Ah,
Oh oui.
Je peux te demander juste un petit topo sur Yakuza 7 quand même, puisque toi, tu l'as fini, et il va sortir sur Xbox One X, notamment. C'est l'un des jeux de lancement de la Xbox One XS, et il sera disponible en Occident pendant plusieurs mois, uniquement sur... pour la next-gen, hein, il sera disponible sur PS4 aussi, mais pour la next-gen... je dis une bêtise. Non, c'est bien ça, sur PS4 aussi. Mais il sera disponible sur Xbox One XS, ça sera l'un des jeux du lancement. Tu peux nous faire le topo en 2 minutes pour peut-être donner envie.
Alors, comment je pense pas qu'il y ait beaucoup de grosses différences avec la version next-gen et la version, je pense que ce sera un bête portage qui tourne. C'est un nouveau Yakuza et c'est surtout une nouvelle génération pour tous les joueurs de Yakuza, puisque le héros n'est plus là, Kiryu n'est plus là, c'est un nouveau héros qui s'appelle Ichiban. Et ça se passe à Yokohama, donc c'est un Yakuza mais qui a mal tourné, c'est-à-dire que il se retrouve dans une décharge, il se dit merde, qu'est-ce que je fous là, et il doit regravir les échelons pour rester schématique, hein, j'essaie de pas spoiler. La grosse nouveauté, c'est pas l'histoire évidemment, c'est le fait que c'est un RPG, et c'est un RPG pur sucre. C'est-à-dire que quand tu croises un Yakuza, au lieu que ce soit un jeu de baston, ça sera un RPG au tour par tour, mais très dynamique. C'est-à-dire que quand tu donnes un coup sur un mec, tu vas l'envoyer balader, mais si un de tes partenaires de ton équipe est là sur le moment, il peut lui filer des coups de taloche, il peut lui filer des coups de sac à main ou des coups de baramine, suivant comment tu l'as équipé. C'est un RPG, donc ça veut dire que tu peux varier de job entre les personnages, c'est-à-dire que tu peux avoir une combinaison de CRS, mais aussi tu peux être barman, tu peux être host, tu peux être ouvrier. Il y a plein de jobs délirants. Tu peux être clochard comme job, qui est très bizarre, mais clochard est très bon pour soigner les gens, faut le savoir. Il y a plein de jobs, c'est très drôle. Il y a pas mal de persos, dont une fille. C'est rare de le souligner dans Yakuza. Donc il y a un personnage jouable important et féminin dans l'équipe. c'est vraiment un super jeu. C'est vraiment un super RPG. Et c'était pas gagné parce que c'est quand même un RPG, donc tu vas passer 50 heures pour le finir. Non, peut-être 40 heures. Tu vas peut-être faire 40 heures de jeu, mais surtout, tu vas faire 40 heures de jeu dans le même endroit. C'est quand même dans le même décor. C'est un RPG en huis clos, c'est à Yokohama, et au bout d'un moment, tu connaîtras toutes les rues par cœur. C'est super délirant. C'est à la fois très, très, très sobre comme c'est la Yakuza, et toutes les side quests sont barrées puisqu'il y a un jeu d'actionnariat. Tu peux acheter des... tu peux acheter des actions non pas de Blizzard, Activision, mais d'une entreprise de sushi, et placer tes bons gars pour que l'actionnariat augmente. Mais en même temps, c'est un minigame assez rigolo puisque ça donne accès à des espèces de délires à la Phoenix Wright. Donc c'est vraiment très 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 drôle. Et la mascotte de l'entreprise est une poule. J'adore cette idée. tu vas te battre contre des Roomba géants. Tu vas te battre contre des sportifs dans la rue, contre des Yakuza. C'est nawak et c'est génial. J'ai adoré ce jeu. Voilà.
C'est une super bonne nouvelle que ça fonctionne, parce qu'effectivement le passage du jeu d'action vraiment brawler à un RPG, c'était pas forcément réussi d'avance. Mais quand tu parles de nawak et de n'importe quoi, il y a un trailer qui est sorti il y a quelques jours, ou un ou deux jours, et quand on parle de nawak, mais c'est vraiment vraiment n'importe
quoi. C'est frappadingue. Les furies sont à pisser de rire, les personnages sont très très drôles, et en même temps le contenu dramatique est toujours là, et c'est assez rigolo.
Parce que c'est ça, Yakuza, c'est quand même une histoire qui est sérieuse, c'est un drame quoi. Enfin un drame.
C'est un RPG où tout d'un coup t'as un clodo qui te balance des pigeons, sa furie c'est des pigeons. Ouais. Ou tout d'un coup tu vas appeler un satellite qui balance des lasers comme dans Akira. Il y a tous les minigames que tu veux, il y a toujours Virtua Fighter 5 en disponible en dans les bornes d'arcade. Ouais. C'est génial, c'est le meilleur de Yakuza Land. Et je trouve que surtout ça apporte quelque chose de nouveau après plus de 8 jeux, je sais plus combien ils ont, non, dizaines de jeux du même acabit, avec toujours le même dynamique. Là, c'est vraiment une autre dynamique, vraiment très intéressante. Tu changes de job, tu vas à la NPE locale, c'est à hurler de rire. C'est vraiment... D'accord, tu dois faire des courses de cartes, mais qui en fait sont des vélos où tu récupères le métal, c'est la décharge publique. Enfin, c'est en même temps, c'est assez rigolo parce qu'on rigole et il y a plein de blagues, mais en même temps, ça reste avec un tissu social assez, assez intéressant, puisque c'est un jeu qui s'intéresse quand même à l'immigration, à la nouvelle immigration au Japon, qui s'intéresse à la précarité au Japon. Il y a plein de sujets difficiles que seul Yakuza évoque, en fait, parce que tous les jeux japonais, en général, esquivent ce genre de sujet. Yakuza est quand même un jeu très très proche de l'actualité.
Écoute, un mélange improbable, mais qui fonctionne, donc
c'est super, c'est vraiment super. Je mouille ma chemise pour ce
pour
jeu.
Yakuza.
Vous ne serez pas déçus.
Alors, les jeux auxquels on joue en ce moment, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous proposer, dont tu veux nous parler ?
Alors, en ce moment, j'ai un peu de mal à trouver.
Oui, c'est vrai.
Je ne me cache pas. Juste avant mon accouchement, j'ai passé quelques heures sur Spiritfarer, qui est vraiment chouette.
Ouais. C'est le jeu dont tous les gens du Discord me parlent tout le temps et me disent « Oh, c'est génial, super jeu indé, il faut que tu y joues. » Mais c'est un peu Animal Crossing aussi, d'après ce qu'on me dit, donc je ne sais pas si c'est mon truc. Mais pardon, je suis contente du coup que tu puisses nous en parler.
Oui, écoute, c'est un mix, je dirais, entre Animal Crossing et Stardew Valley. Donc c'est un jeu de gestion où tu loues une nana qui est passeuse d'âme. Donc Charon part en vacances, en gros, il faut le voir comme ça, et il lui passe le relais. Et donc en fait, elle navigue sur un grand bateau qui au début est une plateforme vide, sur lequel elle accueille des âmes qui sont en passage. Donc on va faire un parallèle judéo-chrétien et parler de purgatoire, même si c'est jamais vraiment évoqué comme tel dans le jeu. Donc elle accueille ses âmes dans le purgatoire, et son travail, ça va être de les contenter pour les amener à aller à accepter leur sort, on va dire, et aller vers l'au-delà. Et donc, pour ça, elle a un bateau à sa disposition qu'elle va devoir aménager. Donc, c'est là qu'on a le côté vraiment gestion, en construisant tout un tas de bâtiments qui vont lui permettre de faire du craft, de la récolte. Tout ça dans l'unique but de satisfaire les âmes qui sont à bord de son bateau jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau de sérénité suffisant pour se dire « Bon, bah ok, j'ai fait mon temps dans le purgatoire, j'accepte maintenant de lâcher prise et de rejoindre les autres âmes. » Donc c'est un jeu qui parle du deuil, mais de façon vraiment très, très poétique. Visuellement, t'es dans un jeu en 2D dont le style va rappeler un petit peu par moment du Ghibli, par moment du Disney. C'est le studio qui avait fait les jeux Jotun et Thunder. Je sais pas si ça vous parle, mais visuellement, ils avaient vraiment déjà cette patte graphique très... très dessin animé des années 80-90, je dirais. Et voilà, c'est un jeu qui parle de tout ça de façon très... Il y a une très belle écriture. C'est un jeu good mood, je trouve, malgré le sujet.
Le sujet, ouais.
Et très chronophage, parce que du coup, qui dit jeu de gestion, dit t'as toujours quelque chose à faire, un truc à aller récolter. Voilà, donc ça peut être un peu répétitif par moment, mais moi je ne l'ai pas trop senti personnellement. Je me suis vraiment laissée complètement embarquer dans ce jeu, de cette petite bulle poétique, et je le recommande à tout le monde. Il est dispo sur toutes les plateformes et sur le Game Pass PC. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Encore une fois, merci Game Pass. Voilà.
C'est Spiritfarer pour ceux qui n'ont pas entendu le titre, et c'est vrai que c'est. Alors, tu dis Stardew Valley et. Animal Crossing, c'est, je sais pas, c'est genre, comment est-ce qu'on pourrait faire un jeu que Patrick est certain de ne pas apprécier, dans lequel Patrick peut pas rentrer. Peut-être, hein, il faudra que je le teste, mais trop de jeux. Mais merci Spiritfarer, effectivement, il y a plein d'auditeurs qui en disent du bien. Pardon ?
Non, je disais, je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Hein. C'est un genre de jeu particulier, mais bon, en l'occurrence là, c'est plutôt réussi.
Très bien. Daniel, toi, tu joues à quoi en ce moment, alors ? Dis-nous tout.
Écoute, pas Animal Crossing, parce qu'Animal Crossing était mon jeu facile à faire quand je donnais le biberon le matin, et ensuite, le petit s'endormait, et là, j'avais qu'un seul truc assez doux, sans mouvement et tout. Je faisais ma petite heure d'Animal Crossing avec mon bébé sur le ventre. Maintenant, c'est fini, il est trop grand, il s'endort plus comme ça. Et donc, maintenant, j'ai pu retourner à des jeux, et le seul jeu qui compte là en ce moment, c'est Hades.
Yes.
Je suppose que t'en as parlé, mais Hades, j'ai fini mon premier run hier.
Bravo, j'ai pas eu le temps.
Et en fait, tout simplement, Patrick, je t'en veux parce que j'étais en train d'y jouer juste avant. Je suis arrivé, j'ai un build épais parce que j'essaye d'avoir récupéré le maximum de diamants, donc je varie un petit peu les armes. Mm-hmm. Et j'essaye de récupérer le maximum de diamants. C'est super. Hades, c'est super. C'est la seule chose qui compte. Les nouvelles consoles, on s'en fout globalement parce qu'il n'y a pas Hades dessus. Hades, c'est sur Switch, c'est sur PC, c'est vraiment super. C'est mon kiff absolu.
C'est marrant parce que effectivement Hades, moi j'en parle depuis l'Early Access sur l'Epic Game Store il y a 2 ans, et depuis qu'il est sorti sur Switch, j'ai replongé dedans, et oui, pareil, dès que j'ai une minute de libre, je veux jouer à Hades, et je joue à Hades. C'est vraiment, c'est... Je disais, je crois, il y a quelques semaines, c'est le Dead Cells, c'est comme Dead Cells au niveau des roguelites, genre qui atteignent un certain niveau d'excellence, mais Dead Cells reste sans doute quand même un petit peu au-dessus. Là, j'ai l'impression qu'ils sont à peu près à égalité. Il est vraiment... Alors, ils ont des qualités et des défauts chacun, mais Hades me happe au moins autant que Dead Cells. Mais, je réponds à la chatroom. Oui, Hades, sur Switch, il Hades est très bon.
Hades a un quelque chose pour lui, c'est que tous les personnages, hommes comme femmes, sont turbo bonasse. Et Hades, le vieux dad bod et tout, là, il est trop beau. Zagreus, il est trop beau. On dirait Seiya. Ils sont tous super beaux. Aphrodite, elle est géniale. Dusa, donc la Médusa locale, ils sont trop beaux. Moi, j'y joue comme si c'était un dating sim. Hein. Ouais. C'est parfait. C'est vraiment, j'adore ce jeu. La seule chose que je regrette, c'est que je voudrais en avoir plus, quoi. Genre, annoncer Hades 2 avec 3 zones en plus. Non, genre, mettez-moi 2 zones en plus. Mettez-moi tout ce que, genre, mettez-moi Chronos. mettez-moi tout ce qui me manque, genre Ulysse, mettez-moi... moi, je peux vous en donner des exemples des trucs qui manquent.
Ils marchent tellement bien, je crois qu'ils vont... Supergiant, ils n'ont pas l'air d'avoir l'habitude de faire des suites, mais je crois qu'ils marchent tellement bien, ils vont continuer, au moins un DLC, tu vois. Ils ont dit, non, c'est pas notre truc, nous, on fait un jeu complet, il est sorti et basta. Mais je crois qu'il va se retrouver...
Dead Cells aussi, ils n'aimaient pas les DLC, ils en ont fait un, finalement.
Ouais, même plusieurs.
Pourquoi pas Non, je veux dire, à un moment, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Ouais. Donnez-moi du Hades.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Alors, il est sur Epic Game Store, Steam et Switch. Et on posait la question, je disais tout à l'heure. Il est sur Mac, ok.
Il est sur Mac.
Je ne savais pas. Enfin, il y a Steam sur Mac, donc effectivement.
Comment est l'OST? Parce que moi, j'ai toujours adoré les OST de Supergiant Games.
Laisse tomber. Quand tu as le boss et que tu as la guitare qui commence, là, ouf, tu as des frissons dans les chines.
Tout est beau. Et donc, sur Switch, il marche très bien. Hein. Mais tout est tellement bien. Tu parlais des personnages qui sont tous des bonasses et des bonos.
Tous des bonasses. Hein. Les hommes comme les femmes.
Les hommes comme les femmes.
Tous autant qu'ils sont. C'est Orphée, Eurydice...
La chanson. C'est...
Même le Minotaure est bonasse, il faut le dire. Pourtant, j'ai jamais ressenti ça pour un taureau de ma vie.
C'était pour chanferie non assumée.
Vous entendez? Je sais pas si vous entendez.
Et on entend.
Arrête, Patrick, parce que sinon je vais te laisser et je vais y aller directement.
Et tu parlais des personnages et ils ont tous un style. Les graphismes déjà sont super. On en parlait la semaine dernière déjà, mais je suis désolé, je peux pas m'arrêter de parler d'Hadès. Et ils ont tous, même dans leur voix, tous les dieux de l'Olympe veulent que tu sortes des enfers et que tu les rejoignes sur l'Olympe. Et ils sont tous genre. Je sais pas, Dionysos.
Mais est-ce que tu l'as fait? Est-ce que t'as fait au moins un run?
Non, j'ai pas fait. Je pense que je sais ce qui se passe, mais
parce que c'est un twist vraiment.
Mais je suis
chouette.
Sûr. Je pense que je sais.
C'est
mais
vraiment
me dis pas.
Très 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 chouette.
Et
c'est que le début.
Et ils te disent, mon pote, mais faut que tu viennes. Attends, tiens, je vais t'envoyer ces bénédictions. Faut que tu nous rejoignes. On s'amuse trop en Olympe. Évidemment, j'arrive pas à le faire, mais les voix, c'est que en anglais. C'est les sous-titres qui sont en français, mais ils sont tous désinvoltes. T'as l'impression t'as l'impression de lire Homer, quoi. Ils sont désinvoltes. Tu sens qu'ils sont vicieux à l'intérieur et en même temps ils ont l'air très cool. Enfin, c'est tellement bien fait. Et un truc dont on n'a pas parlé, je crois, la semaine dernière, c'est à quel point la narration est intelligemment tissée dans les runs. T'as pas l'impression de faire un run, ça s'arrête, un run, ça s'arrête.
Ah non, le lore est super.
T'as vraiment l'impression que c'est une histoire. Et les dialogues avec les différents personnages que tu revois, je joue depuis, je sais pas, ça doit faire 20 heures de jeu, j'exagère, mais j'ai pas eu deux fois le même dialogue. Et c'est quelques lignes à chaque fois, mais ça joue tellement pour te garder dans le truc. Enfin bon, plus ça va, plus je l'aime. Et à mon avis, c'est jeu de l'année. Hades, c'est pas possible autrement, quoi. Enfin, jeu de l'année, dans la liste des jeux de l'année, j'entends.
Et 4€ plus cher sur Switch, est-ce qu'on a une explication pour ça ou pas?
Parce que tu peux y jouer dans ton lit ou avec ton bébé sur le ventre.
Ah, bah voilà, ok, bah c'est
ça,
bon.
Ça vaut 4€. Ça vaut 4€. Tu sais quoi, si ça t'ennuie de le payer 4€ de plus, je te l'offre.
Ah, mais oui, non, mais c'est un jeu qui donne envie que tout le monde puisse le découvrir. Bon, et si vous êtes lancé, j'ai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, Note Patrick, où je vous donne 6 astuces pour des trucs intéressants à savoir quand on débute, parce qu'il est hyper bien, mais il est un petit peu opaque au départ, il y a beaucoup de choses à savoir, et il y a 6 petits trucs qui ne sont pas évidents à comprendre dès le début, que je vous propose sur la chaîne YouTube.
Eh bien écoute, moi je stream le jeu, figure-toi, sur ma chaîne, donc...
Twitch.tv/CamilleRobotics,
comme mon pseudo. Et il y a beaucoup de pros déjà de Hades, et c'est super parce que d'abord, on discute toujours de quel build je devrais faire, et en général, les gens sont assez d'accord sur les builds, l'orientation des builds, et vraiment, il y a un truc d'osmose avec ce jeu, où on discute de comment, des techniques, et je découvre de nouveaux trucs à chaque fois, c'est vraiment, c'est super, j'adore ce jeu, il arrive au point nommé, quoi.
Je crois que si vous n'avez pas été convaincu de jouer à Hades avec tout ça, on ne peut rien faire pour vous. Hein. Là, c'est terminé. Et les questions qu'on me pose parfois, si vous n'aimez pas les autres jeux Supergiant Games, est-ce que vous pouvez jouer à Hades? Enfin, est-ce que vous pensez pouvoir aimer Hades?
C'est mon cas.
Oui, c'est mon cas aussi. Donc voilà, deux confirmations. Ouais. Si vous n'aimez pas les roguelikes ou les roguelites, bon, peut-être que ça ne sera pas forcément pour vous parce que c'est très roguelite, mais quand même, fermez pas
attends,
la porte
attends,
parce que...
Il y a le God Mode. Il y a le God Mode qui est oufissime pour que... évidemment, c'est un jeu qui demande difficile, un peu à la Dark Souls. Il faut apprendre de ses erreurs et tout ça. Ça demande du temps et de l'investissement. Mais il y a le God Mode et à chaque fois que tu perds, ta résistance au coup... Alors, je ne l'ai pas essayé, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ta résistance au coup augmente d'1% à chaque fois. Donc, à chaque fois que tu perds, tu deviens plus résistant. Ça ne t'incite pas à devenir meilleur, mais par contre, tu vas... au bout d'un moment, tu vas survoler le jeu et ça permettra aussi aux gens qui ne sont pas des roguelikistes d'y jouer. Quoi. Mmh,
tout à fait. Il y a vraiment beaucoup de bonus et de trucs à choper et naturellement, avec les runs, on devient plus fort à chaque fois. Donc, c'est un petit peu une augmentation de ce truc, mais je dirais que, si ça vous fait chier, évidemment, allez-y, mettez le God Mode. Mais même sans God Mode, on devient vraiment plus fort parce que c'est vraiment un roguelite où les upgrades sont substantiels. C'est pas un truc Dead Cells, par exemple. Si on ne devenait pas meilleur, oui, il y avait des upgrades, mais si on ne devenait pas meilleur, c'était chaud quand même. Là, on peut vraiment s'en sortir parce que, si on ne devenait pas meilleur au jeu, nous, dans nos capacités, c'était une chose. Mais là, on a plus de points de vie, on fait plus de dégâts, etc. etc. Donc... voilà pour Hades. J'espère qu'on vous aura convaincu. Le dernier truc dont je veux parler, c'est Mario 35, Mario Party 35, Super Mario 35, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le jeu qui est sur le Nintendo Switch Online gratuitement, qui est le Battle Royale de Mario, qui est disponible pour 6 mois depuis une semaine environ, que j'ai testé un petit peu. Franchement, c'est marrant. C'est pas le jeu de l'année, mais j'ai été surpris. J'imagine que tu y as joué aussi, Daniel. C'est marrant.
J'écris dessus, donc je vais éviter de trop en parler parce que j'essaie de justement concentrer un peu mes idées. Mais je trouve que c'est génial. Conceptuellement, c'est fabuleux. Et encore une fois, Nintendo, ils sont malins parce que à la fois ils peuvent faire des trucs pour les pigeons avec des Game & Watch et en même temps de complètement réinventer. Réinventer Mario avec de Francis Sou, de le donner à un expert en réseau internet et paf, il y a une nouvelle offre. Alors elle est un peu imparfaite et j'essaie de décrypter la méta le mieux possible et effectivement à haut niveau, il y a des choses à discuter, il y a plein de choses à discuter sur le jeu, mais en tout cas c'est un jeu qui alimente ma réflexion et je trouve ça super en fait, je trouve ça vraiment 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 très très bien.
Ouais, c'est la preuve que...
Et c'est gratos si t'as le online Switch, donc t'as même pas à gueuler, quoi. C'est genre, t'as la Super Nintendo émulée, t'as la NES émulée, et en plus, t'as Tetris 99 et Mario 35, qui t'as pas besoin de PlayStation 5, objectivement. Ça.
Je suis assez d'accord.
C'est le Tetris 99 du Super Mario, quoi.
Exactement. Si tu te bats contre d'autres gens, et les gens que tu butes, vont dans l'écran, dans les écrans de tes rivaux.
C'est-à-dire que les ennemis qu'on tue dans notre partie vont sur les écrans des autres joueurs, et c'est exactement le principe de Tetris 99. Hein. On est 35 au lieu de 99, et ça fonctionne très bien. Je pense que c'est vraiment un jeu, contrairement peut-être à Mario All-Stars, qui est complètement adapté au fait d'exister que pour 6 mois, contrairement aux autres, parce que c'est vraiment un jeu marrant, qui est une fête, qui célèbre Mario, mais qui n'a pas forcément vocation à exister pour toujours. Là, c'est 6 mois, donc on se dit on va y jouer et peut-être qu'il reviendra dans une autre version après, mais en tant que tel, je trouve que ça fonctionne pas mal et c'est marrant. Voilà, c'est sympathique. Donc je voulais le mentionner.
Non, c'est plus que sympa. C'est passionnant. Passionnant.
Battle Royale fonctionne vraiment partout, quoi. Surtout quand c'est bien fait.
Ah bah, Battle Royale à la crèche, là. Hop, j'y vais.
Bon, allez, quelques petites news rapides avant, pour conclure. Baldur's Gate 3 est disponible en Early Access. Il y a des retours très, très positifs. Moi, je n'y ai pas joué, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais visiblement, l'accès anticipé fonctionne pas mal pour la plupart des gens. Il y a la bêta de Flight Simulator en VR, en réalité virtuelle, qui est en train d'être lancée. Donc déjà que Flight Simulator, c'était la folie au niveau de la simulation avec la réalité virtuelle, j'imagine que c'est encore plus. La Recall Box 7 est sortie et je me demande si je vais pas me commander une petite machine Recall Box. C'est un OS qui est complètement dédié au rétro gaming. On peut le mettre sur un petit Raspberry Pi, tout petit ordinateur, et ça fait plein de rétro gaming. Je me demande si je vais pas me commander ça. Ça a l'air sympa. Il y a le multijoueur de Ghost of Tsushima qui a été daté pour le 16 octobre. Une petite update.
Le meilleur jeu chiant de l'année.
Et je pense, je sais pas s'il est vraiment chiant, mais il est.
Ah, il est chiant à crever. Je peux te dire.
Moi je trouve pas, je l'ai bien aimé.
Je suis à la fin, je peux te dire que c'est. J'ai l'impression que ma vie long, n'a pas avancé d'un pouce. C'est terrifiant. Je viens de tuer 40 Mongols et je me dis, ah, je vais écrire un haïku. Tu vois, c'est vraiment.
T'aimes le Japon, hein.
Oui, et en même temps, tu sais quoi, j'étais en manque de jeux Ubi qui est un peu toujours. Dans les jeux Ubi, il y a toujours un peu le jeu débile, pas débile, mais plutôt chiant, hypnotique, dans lequel je vais me fondre. Et cette année, il n'y en a pas eu. Ou pour l'instant, il n'y en a pas eu. Attendons encore un mois, je suis sûr qu'il y en aura un. Et là, Ghost of Tsushima a rempli ma joie d'activer des petits trucs sur une carte avec des trucs chiants. Donc, j'ai adoré ce jeu chiant. Voilà.
Je peux comprendre.
En termes de jeu, c'est vraiment. Tout a été déjà fait. Si tu cherches quelque chose d'objectivement nouveau là-dedans, c'est pas là.
Ah, ça, c'est sûr, c'est pas là que tu vas. Oh, il y a l'ambiance qui est particulière. Mais Escarina, tu voulais dire quelque chose sur cette update multijoueur et New Game Plus?
Non, moi je disais juste que j'avais adoré le jeu aussi. Je l'ai platiné, ce qui ne m'arrive jamais. Bon, il est pas très compliqué à platiner, mais. J'ai vraiment passé un super moment. Par contre, une fois que j'ai fini un jeu, j'ai énormément de mal à m'y remettre. Donc, clairement, le New Game Plus et le multijoueur, je m'y mettrai pas. Mmh. Ça me fait un peu penser à ce qu'ils font à chaque fois Rockstar avec notamment Red Dead. Ils sortent le multi après et je sais que c'est. Même si c'est chouette, j'y retourne pas. Quoi.
Je comprends, ouais. Mais le multi a l'air quand même assez poussé. Hein. C'est une update intéressante du jeu dont on ne savait pas qu'elle allait arriver avant son annonce il y a un mois et qui est une belle surprise. À voir si ça va relancer.
Chier à plusieurs, ça peut être génial.
Et pour se faire chier à plusieurs ou même tout seul en ce moment avec tous les jeux qui sortent, enfin je sais pas, jouer à Hades par exemple au hasard. Need for Speed Hot Pursuit Remastered va arriver le mois prochain. Je sais pas qui avait besoin de Need for Speed Remastered, Need for Speed Hot Pursuit. Vous m'auriez dit Underground, ok, mais Hot Pursuit, je sais pas, il était peut-être très aimé.
Alors Patrick, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as joué à Fast and Furious qui est sorti
Mais écoute, je ne fais pas dans le nanar, moi.
Il est sorti dans l'anonymat le plus total au mois d'août, mais tu sais, comme les sorties de cinéma à l'époque où il y avait du cinéma.
Je pense que je me fous autant du jeu que j'attends les films avec impatience, c'est-à-dire beaucoup.
Mais ils sont passés où les fans de Fast and Furious? Les Fast and Furious, dites-moi ce que vaut le jeu.
Je pense, tous les retours qu'on en a eu sur Fast and Furious, c'est, comment il s'appelait? Crossroads. C'était quand même exactement ce qu'on pouvait attendre d'un portage d'une adaptation de ciné en jeu vidéo dans les années 90. C'est-à-dire pas grand-chose.
Mais je regrette cette époque plus légère. Voilà, bah, écoute, c'est tout ce que je veux dire.
Écoute, tu peux peut-être acheter Crossroads alors.
Fast and Furious, c'était mieux avant.
Moi, j'attendrai le 9. C'est le 9 ? On en est au 9, oui. Le 9, le jour où on pourra retourner au cinéma.
On peut retourner au cinéma, c'est juste que les blockbusters, ils sont plus là.
Bah oui, non, mais il n'y a rien à voir. Donc,
Y avait Tenet, mais je crois que c'est le seul qui a osé se mouiller.
J'y suis pas allé. Mais vous savez quoi ? On va être bien content pour le cinéma et le jeu vidéo, puisque notre dernière news, c'est que en plus d'un nouveau film Resident Evil qui a été confirmé par Capcom, qui revient aux origines de la série. Vous savez que l'univers cinématique de Resident Evil est un petit peu différent de l'univers du jeu. C'est pas tout à fait le même style, mais c'est toujours marrant à regarder. Eh bien, on a eu notre premier trailer du film Monster Hunter. Et là, comment vous dire ? C'est pas exactement ce que j'aurais espéré d'un film Monster Hunter.
Mais c'est tout ce qu'on peut attendre de Paul Anderson.
Bah,
je peux vraiment attendre quelque chose de Paul Anderson.
Bah, le truc, c'est qu'il a fait la meilleure adaptation non officielle de Final Fantasy. Je ne sais pas si vous avez
ça,
vu...
Non, je n'ai pas vu.
Alors, son adaptation non officielle de Final Fantasy, c'est les Trois Mousquetaires 3D. Et en fait, il y a des bateaux qui volent et tout. C'est mortel. C'est Final Fantasy 4. Et c'est limite, ils cherchent des cristaux. Tu vois, c'est à ce niveau-là. C'est plus les ferrets de la reine, c'est les cristaux de la reine. Et c'est à pleurer de rire. Voilà. Moi, j'espère que ça va être nul, mais nul drôle. Voilà. C'est ce que j'attends pas plus.
C'est un peu mon impression parce que Resident Evil, c'est le même réalisateur, si vous ne le saviez pas, mais Resident Evil, c'est clairement pas les jeux vidéo, mais les films sont très drôles. Moi, je prends un certain plaisir à regarder ces nanars. Là, le problème, c'est que c'est pas du tout un film dans un univers heroic fantasy. C'est la seule chose qu'on voit, c'est des militaires dans un désert et un monstre qui sort du sol, enfin qui sort du sable. C'est quoi ? C'est un Rathalos ? C'est le seul nom que je connais de Monster Hunter. Vous vous exposez comme non-connaisseur.
Non, mais surtout, j'ai pas regardé ça longtemps. J'ai vu les mecs avec les guns et j'ai fait « Ok, encore un film qui veulent plus l'armée. » J'ai dit « C'est super, c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment, merci. »
Et donc, ouais, mais peut-être que ça sera marrant quand même, tu vois. Bon, c'est mon plus grand espoir.
Non, ça sera pas marrant, ça sera nul. Et si c'est... Et la question, c'est est-ce que c'est nul marrant ou est-ce que c'est nul chiant ?
Mais c'est ce que je veux dire, comme Resident Evil.
Et lui est capable du nul comme du nul chiant. Ouais. On ne sait jamais où ça se situe.
Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses des films Resident Evil ? C'est nul marrant, non ? T'es d'accord ?
D'abord, il ne les a pas tous faits. Parce qu'on les avait tous regardés pour Super Ciné Battle. Il avait fait... j'ai du mal à les remémorer. Il y avait Afterlife, il a fait Rétribution. Il les a pas tous faits. Et ce qui est génial, c'est que même quand il ne les fait pas tous, les autres se débrouillent pour être parfois plus mauvais que lui. Final Chapter, moi je me souviens de Final Chapter, c'était le dernier, c'était le sixième. Il était vraiment, c'était vraiment pas bon.
Donc c'était nul mauvais.
Et en même temps, il y a un truc qui est génial, c'est des films qui étaient obsédés sur le fait qu'il y a des chambres à mur laser qui avancent sur toi pour te découper en espèce de petits steaks tartare. C'était l'obsession de ce film. On voyait toujours ce couloir en fait et je me suis demandé et tu rigoles mais ça fait des milliards je crois que la série entière elle a fait
qu'ils continuent à en faire, ils en ont fait 6 ou 7
mais il faut pas arrêter, il faut laisser le talent s'exprimer et il faut laisser Mila Jovovich qui est ma foi une actrice qui s'investit énormément. voilà, non, c'est...
Bah écoute, Mila Jovovich est également dans Monster Hunter, donc ouais, on aura le plaisir de la retrouver. Et c'est tout pour cet épisode. On aura le plaisir de vous retrouver tous les deux quelque part sur Internet, j'en suis sûr. Est-ce que, Daniel, tu peux nous dire où on peut te retrouver ?
Twitch.tv/CamouiRobotics. Exactement, Twitch.tv/CamouiRobotics. Camille Robotique sur Twitter, After Eight, le podcast pop culturel où on déconstruit la pop culture, Super Ciné Battle, le film où on classe dans le marbre tous les films de l'humanité. On a fait un épisode spécial entièrement sur Resident Evil où on a classé tous les films de Resident Evil par ordre de qualité. Je peux vous le dire que c'est il y aura des surprises. Et puis sur Gamekult où j'ai un ou deux articles en vue. Je crois que c'est tout. Et sinon, au bonheur, la chance, je mettrai ça sur Twitter au fur et à mesure.
Magnifique. Escarina, est-ce que tu es encore active sur Internet ou trop occupée avec le Mogwai ?
Non, ça va. Au moins, j'ai toujours une main libre pour aller sur les réseaux sociaux et continuer à m'occuper de mon site, tout ça. Donc, ça va, j'arrive à m'organiser. Bah, écoute, moi, de mon côté, donc tous les deuxièmes jeudis du mois avec toi ici, Patrick. Sinon, je suis sur un autre podcast qui s'appelle Super Gamerside où on parle aussi de jeux vidéo. Et d'ailleurs, on a fait une émission spéciale Recallbox il y a quelques mois de ça où on invitait le community manager de Recallbox. Donc, Patrick, si tu veux en savoir un peu plus sur ce que c'est que Recallbox, je t'invite à aller écouter cette émission si tes chastes oreilles le supportent. Mais voilà, on a fait une émission vraiment super intéressante avec le CM de Recallbox.
Il fait sur Twitch aussi des interviews régulièrement. Oui. Et j'avais participé il y a quelques semaines à son interview, Fabrice,
ouais,
c'est ça. Très sympa. Et on avait parlé pendant, je sais pas, 2 heures, 3 heures de mes premières machines. Donc c'était très sympa, ouais, sur la chaîne Twitch de Recallbox.
Sinon, et bah sur Twitter, escarina_, et puis j'ai aussi mon site donc Kiss My Geek, site rédactionnel où on parle là de jeux vidéo et autres geekeries. Je ne sais pas si ce terme est vraiment encore à la mode, mais et voilà.
Merci beaucoup, Escarina. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Je suis NotePatrick partout. Si vous voulez voir cette vidéo avec les astuces d'Hadès pour bien débuter, bah, c'est sur youtube.com/NotePatrick. Et tous les liens, en fait, sont sur NotePatrick.com. Donc, vous pouvez retrouver tout ça très facilement. Si vous souhaitez soutenir l'émission, comment faire, me demandez-vous, bah, c'est très simple. Vous allez sur patreon.com/rdvjeux. Et vous avez plein de récompenses super cool, dont les émissions sans pub et d'autres récompenses très très cool aussi, en plus de l'immense satisfaction de pouvoir contribuer à l'existence de cette émission. Vous pouvez en plus, comme je le disais, payer en euros désormais, donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté si vous ne voulez pas payer en dollars. Et en plus de ça, si vous êtes patriote qui a un accès au niveau étendu du Discord, eh ben on va faire dans un instant l'after show qui sera disponible pour les auditeurs qui ont l'émission pour Patreon. Donc on ajoute le petit after show où c'est un petit peu la détente, on est tous ensemble, on rigole, on s'amuse et on se fait ça après la fin de l'émission sur Twitch et disponible dans l'émission en version pour les contributeurs. Donc, c'est le moment où je tombe un petit peu le costard et je suis un petit peu plus détendu parce que là, je suis très sérieux quand même. Je vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. Si vous êtes sur le flux normal, je vous dis à la semaine prochaine. Et pour les patriotes, je vous dis dans un instant sur l'after show qu'on vient de commencer en fait. C'est tout nouveau. C'est à partir de cette semaine qu'on fait ça. Donc, vous inquiétez pas si vous avez raté avant. C'est tout, tout nouveau. C'est un nouveau truc. Allez, je vous fais des bises. Tu voulais dire un truc, Daniel ? Non, c'est fini ? Je t'ai entendu.
Absolument pas.
Absolument pas. Bisous à tous.
Et bon courage à tous. Voilà.
Jouez à Hadès. C'est ça. Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.